Donc, cette thèse, je la fais par le biais, en anthropologie, donc par le biais d'entretiens sur le terrain. Je vais voir des gens qui sont homosexuels, qui sont transsexuels, qui sont lesbiennes, qui ont des rapports sexuels avec des hommes et des femmes, des gens du même sexe, mais qui ne se définissent pas en tant qu'homosexuels ou lesbiennes. Et je veux savoir ce qu'ils pensent. Je veux savoir quelles sont les représentations qu'ils ont de leur sexualité, de leur genre, leur identité de manière générale, leur rapport à la religion, leur religiosité, comme on dit, donc un rapport personnel à la religion, ce qui me permet effectivement d'avoir une représentation ensuite très riche, j'espère dans ce doctorat qui sera publié un jour, de ce que sont ces gens dont on parle tant, les homosexuels qui sont croyants, qui décident de ne plus être croyants, etc. Pourquoi, comment, avec quels processus mentaux et sous le coup de quelle pression sociale, est-ce qu'ils arrivent à faire maturer ces représentations? Alors, pour replacer assez rapidement dans le contexte mon sujet d'étude, par lequel je suis concerné à titre personnel, je suis marié avec un Sud-Africain, Kiam, qui va venir, qui est en train de filmer, je pense. Et donc, on s'était marié en Afrique du Sud en 2011. Et parce que la loi a été faite d'une certaine façon en ce qui concerne le PACS, on n'était pas en mesure de contracter un PACS en France, parce que pour se PACSer, il faut être célibataire en France. Donc voilà, j'ai, même à titre personnel, mais aussi en tant que chercheur, essayé d'élaborer une représentation de d'où vient finalement cette représentation selon laquelle ce préjugé, vrai ou pas, selon lequel l'islam est une religion, une tradition, une culture homophobe par essence. Donc je me suis plongé dans les textes et j'ai vu que même si aujourd'hui la question de l'homosexualité, l'identité homosexuelle, si elle existe, l'identité transsexuelle, lesbienne, bisexuelle, si elles existent, est considérée de manière subalterne dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire que l'identité hégémonique, dominante, l'identité masculine, toute puissante, virile, l'identité féminine étant, et l'identité homosexuelle et transsexuelle étant dépendante, étant soumise, subalterne à cette identité hégémonique masculine virile. Alors que pendant des siècles, il semblerait que la perspective ait été en miroir de ce qu'elle est aujourd'hui, entre ce qu'on appelle l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire que vous aviez pendant des siècles, on a des traces historiques, des récits de voyage de ça, des voyageurs, des ecclésiastes, des commerçants qui vont de l'autre côté de la Méditerranée depuis l'Europe et qui disent l'Empire monde, la sublime porte, l'Empire ottoman entre autres, mais il y avait aussi l'Empire du Maroc, les royaumes du Maroc, comme on les appelait à l'époque, sont très puissants, ils sont de plus en plus développés, etc. Mais bon, alors l'Empire ottoman arrivait jusqu'aux portes de l'Europe, Vienne, Budapest, etc., les Balkans. Mais ces voyageurs, ces ecclésiastes disaient, mais c'est bizarre parce qu'ils pratiquent l'homoérotisme, voire même l'homosexualité. Vous avez des voyageurs, par exemple, qui voyagent à travers la Mésopotamie dans des caravanes. Donc, ils passent des jours entiers avec ces hommes qui les fréquentent vraiment au quotidien, dans leur intimité, et qui les voient voilà, autour d'un feu. À un moment, il y en a deux qui se prennent par la main, qui vont faire ce qu'ils ont à faire, et ils reviennent, et personne ne voit quoi que ce soit à y redire. Donc, ils s'interrogent. Ils interrogent leurs voisins et leur disent, toujours autour du pot. Donc, vraiment des récits de voyageurs, et ils leur disent, mais comment est-ce que c'est possible? Personne ne s'offusque du fait qu'ils aient des relations. On n'appelait pas ça encore homosexuel, c'est un terme qui a été inventé par des médecins, des psychiatres européens au XIXe siècle, mais des relations contre nature, etc. Vous avez aussi des récits, en ce qui concerne la transidentité, de jeunes gens qui s'appellent Ali, qui sont un peu efféminés, un genre un peu fluide, on ne sait pas dans quelle catégorie il est placé à l'époque. Ali est amoureux du commerçant en bas de la rue, au coin de la rue, dans son quartier. Et on se rend compte que Ali est un peu intersexuel. Donc, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, bien sûr, mais il comparaît devant un conseil juridique de ulama, de savants, et Alors on l'inspecte, on lui dit ah oui, tu es plutôt comme ci, machin, bouge un peu. Ah oui, tu nous excites, donc tu pourrais être, on pourrait avoir une attirance sexuelle envers toi. Vrai, hein, ça se passe encore aujourd'hui à Lazare. J'ai une amie intersexuelle qui est passée devant un conseil juridique comme ça à Lazare en Égypte quelques années après. Et qui ensuite, on lui a demandé de se faire opérer, de devenir une femme, etc. Parce qu'ils avaient du désir, ils pouvaient avoir, imaginer avoir un désir sexuel envers, envers cette personne. Et donc à l'époque, donc ça remonte au 15e siècle, Ali devient Alia et il peut se marier avec son amoureux et personne n'y voit quoi que ce soit à y redire. Donc voilà, le fait est que durant des siècles, on a des récits de voyageurs et puis des poèmes, des traces historiques diverses, des annales aussi juridique du monde de l'Empire ottoman au XVIe siècle, par exemple, où on voit que il y a des trafiquants de café, parce qu'à l'époque, il y a un conseil de l'ulama, de savants musulmans, qui ont dit le café qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, enfin, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Ils ont dû statuer là-dessus, ils se sont dit, bon non, c'est comme une drogue parce que ça ne laisse pas dormir, ça décuple les facultés mentales pour un temps, donc il faut l'interdire. Et les trafiquants de café étaient condamnés sévèrement. Alors qu'on ne trouve pas de traces de condamnation de l'homosexualité, ce qu'on appellerait l'homosexualité aujourd'hui, dans ces annales qui concernent l'Empire ottoman au XVIe siècle. Vous avez des bouquins comme celui de Khaled Rouaihed, L'amour des garçons. Alors ça perd un peu de sa saveur, hein, la traduction du titre en anglais qui est Before Homosexuality. In the Arab Muslim World, quelque chose comme ça. Et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a étudié durant les 3 derniers siècles avant le 19e siècle, donc avant l'invention par la médecine et la psychiatrie européenne moderne de ce concept, de ce terme, de cette catégorie performative, comme dirait Judith Butler, qu'est l'homosexualité. C'est-à-dire qu'on catégorise les individus en fonction de leur performance sexuelle. Ce qui ne s'était jamais passé, ce qui n'avait pas lieu d'être avant dans la représentation qu'on se faisait de la sexualité et du genre avant cela. Et donc cet auteur, Khaled Rouaihed, répertorie tout un tas de récits comme cela, de traces historiques très intéressantes et il en tire des conclusions vraiment passionnantes sur le fait que il n'y a aucune incompatibilité, que l'incompatibilité préconçue à l'heure actuelle dépend plutôt de contingences géopolitiques. Ça dépend surtout de sociétés arabo-musulmanes qui sont en effervescence, qui se sentent en danger, parfois à juste titre, quand vous voyez que les guerres du Golfe s'enchaînent les unes après les autres, que les guerres civiles en Irak, en Algérie, moi qui l'ai connu il y a quelques années ou ailleurs, durent depuis des décennies, en Syrie à l'heure actuelle. C'est plutôt de ces contingences géopolitiques que dépendent la recherche de boucs émissaires dans les sociétés arabo-islamiques à l'heure actuelle, plutôt que de l'islam en tant que spiritualité, en tant que tradition religieuse à proprement parler. Khaled Al-Wayhem cite un dernier exemple, celui des Mille et une nuits, qui est un ouvrage connu depuis des siècles et qui est en fait islamique. En fait, ce sont des traditions orales qui ont été mises sur le papier des siècles après qu'elles aient été élaboré en fait, et qu'on se racontait au coin du feu dans le monde arabe, bien avant l'islam, bien avant le Coran, qui est un des premiers livres écrits en arabe. Et ces mille et une nuits, c'est quand même un fait historique frappant, ont été publiés en 1925 au Caire pour la première fois avec une version qui expurgeait tout ce qui concernait la sexualité des femmes et tout ce qui a trait à l'homosexualité. On était truffé avant cela. Et allez, en 1925, on n'en trouve plus trace dans cette édition du Caire. De la même façon, on voit des savants musulmans qui se réfèrent à d'autres savants musulmans du monde islamique, enfin des savants musulmans du 15e, 16e siècle, qui disent ce savant était extraordinaire dans tel domaine de la jurisprudence. Mais que Dieu lui pardonne, il écrivait des poèmes pour des jeunes garçons, il avait des amants, c'était de notoriété publique, etc. Vous avez même le recteur d'Al-Azhar, toujours Al-Azhar, qui existe toujours au Caire aujourd'hui, qui au XVIe siècle écrivait ce genre de poème et disait à son mignon: ah, quand tu viens me visiter la nuit avec ton sabre. Et tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'un sabre, mais d'une référence phallique, et que ça parlait de sexualité. Voilà, donc Khaled Ouraïheb, avec son livre qui est vraiment une référence à la matière à l'heure actuelle, met vraiment en perspective cette représentation, ce préjugé qui semblerait injustifié, d'une voilà, tradition arabo-islamique comme étant par essence, comme ayant toujours été par essence homophobe, voire même, comme le disent certains depuis un siècle maintenant, les frères musulmans et d'autres, voire même basé sur l'homophobie, basé sur cette, comment dire, cette altérité, comme ils disent, homme-femme, qui serait un principe universel au sens, un principe sur lequel reposerait, oui, structurant de notre humanité, mais sur lequel, du coup, reposerait l'univers tout entier, parce que l'humanité a été, enfin, l'univers a été créé pour notre humanité. Donc ça va, ils sont, c'est une homophobie très raffinée quand même. Alors vous avez d'autres auteurs comme Everett Rawson, qui a écrit un article aussi de référence, Effeminate of Early Medina, et qui parle de Al-Mukhannathoun, c'est ces hommes androgynes, efféminés, qui étaient accueillis dans les demeures, dans les demeures, parce qu'il avait plusieurs femmes du prophète, les femmes du prophète ne se voilaient pas devant eux, parce que Aïcha, la femme préférée du prophète, nous dit, selon une tradition qui est sans doute véridique ou pas, mais en tout cas, c'est une tradition arabo-islamique avérée, elle nous dit, on ne se voilait pas devant eux parce qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes. Donc c'est intéressant, c'est des hommes qui n'avaient pas de désir envers les femmes, qui étaient efféminés, qui s'habillaient de couleurs colorées, qui écrivaient des poèmes et des chansons. Donc on se dit, bon, ça ressemble beaucoup plus à la représentation, en tout cas qu'on se fait dans ces pays-là, de l'homosexuel, qui n'est pas viril, etc. Bon, c'est une représentation qui est préjugée et stéréotypique, mais voilà, et qui est beaucoup plus loin d'une autre représentation, qui là est citée par d'autres auteurs comme Scott Kugel, dans un livre qu'il a écrit en 2010 et qui s'appelle « Homosexuality in Islam », l'homosexualité à l'intérieur dans l'islam, et pas, donc il ne juxtapose pas les deux concepts, et il cite une autre forme d'homosexualité qui était pratiquée à l'époque, qui n'était pas celle de ses efféminés, à l'époque du prophète hein, et des premiers musulmans, et qui était plutôt celle de tribus arabes qui avaient pour tradition jusqu'au 19e siècle, et Khaled Ouraïheb cite aussi l'exemple d'une tribu en Syrie qui, jusqu'au 19e siècle, avait de notoriété publique ses pratiques, qui est celle d'une homosexualité, entre guillemets, hein, violente. C'est-à-dire qu'on va violer son ennemi sur le champ de bataille pour lui prouver qu'il n'a pas de dignité humaine, qu'il n'est pas un homme, et que les hommes de notre tribu sont plus virils que les hommes de la tribu d'en face. C'est assez primaire, mais ça existait jusqu'au 19e siècle dans le monde arabo-musulman, en Syrie en l'occurrence. Et Scott Kugel, qui est converti à l'islam, qui est vraiment un spécialiste, qui a traduit plusieurs livres de certains maîtres soufis, et qui a écrit un bouquin sur cette question de l'homosexualité, qui est homosexuel lui-même, et qui cite le fait, enfin, qui cite cet épisode d'un homme qui a été tué par les califes, du prophète, donc les successeurs du prophète, pas par le prophète lui-même qui n'a jamais condamné personne selon lui pour homosexualité. Cet homme qui s'appelait Fujair, quelque chose comme téméraire, et donc qui a été condamné pour crime du peuple de Lot, qui est cité dans le Coran, ce crime du peuple de Lot, qui est cité dans plusieurs versets du Coran, à peu près à 7 reprises, de manière explicite, mais où on parle de sexualité entre hommes, bon, on ne sait pas trop ce que c'est, bon, on voit qu'il y a de la violence, il n'y a pas de consentement, mais bon, voilà, on nous dit que c'est ça l'homosexualité, mais ce peuple de Lot qui est cité aussi dans l'Ancien Testament et dans la Bible, pratiquait la piraterie, donc le viol en l'occurrence, avec des hommes, envers des hommes, envers des femmes, le refus d'hospitalité dans des cités au fin fond du désert, donc en gros, vous refusez l'hospitalité, c'est comme si vous condamniez les gens à mort, etc., etc. Donc voilà, Scott Kugel, dans la droite ligne de ces auteurs qui ont introduit finalement les études du genre à partir des années 80-90 dans le champ des études islamiques, Scott Kugel en conclut avec toute cette masse de connaissances maintenant depuis 30 ans qu'il ne s'agit pas d'homosexualité dans la tradition arabo-islamique, mais il s'agit plutôt de violence, de sexualité entre personnes de même sexe en l'occurrence, mais sans consentement. Vous avez aussi des gens comme des historiens antiques, comme Hérodote, qui citent les pratiques de la cité, des cités de la plaine mésopotamienne, donc en l'occurrence aussi Sodome et Gomorre, vraisemblablement, et leur pratique consistait dans le fait d'inciter les jeunes gens de la cité, avant de se marier, d'aller offrir leur virginité à la déesse Ishtar, déesse de la guerre, déesse de l'amour, donc une représentation quand même assez sadomasochiste de la sexualité et de la spiritualité aussi. Et donc les jeunes gens, pour être encore une fois une représentation en miroir de celle qu'on a aujourd'hui, un peu embourgeoisée quelque part, où il faut être vierge, pardon, voilà, il faut être vierge pour se marier, conserver les richesses au sein de la famille, ne pas avoir d'enfants en mariage qu'on reconnaîtrait, etc. À l'époque, c'était tout l'inverse. Il fallait payer le prêtre pour se faire violer pour être quelqu'un de bonne famille. Bon, sur ces représentations-là renouvelées du genre et de la sexualité issues finalement de cette réappropriation de la tradition arabo-islamique, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue théologique finalement, vous avez eu de plus en plus de femmes imams, féministes, qui se sont revendiquées dans les années 80-90 féministes et musulmanes, théologiennes islamiques, comme Amina Wadud par exemple, femme imam californienne. Afro-américaine qui s'est insurgée alors qu'elle était vraiment très très à porter le niqab, quoi, le voile intégral avec son mari qui est décédé depuis. Et elle a réinterprété ses textes, notamment le Coran, mais aussi les hadiths, les traditions du prophète. Et on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait tout à fait être femme et imam, par exemple. Donc elle a dirigé comme ça depuis 2005 régulièrement des prières pour prouver qu'effectivement, on peut être, en étant une femme, tout à fait l'égale des hommes, même lorsqu'on est musulmane, et qu'il n'y a absolument rien dans les textes qui va à l'encontre de cette représentation-là du rapport à la religiosité, à la spiritualité, voire tout l'inverse. Vous aviez aussi des femmes du prophète qui étaient poussées en avant par le prophète lui-même, de son vivant, pour qu'elles dirigent les prières. Mais voilà, toutes ces traditions sur les femmes imams, entre guillemets, parce que même le terme de imam, c'est un terme qui a été inventé comme charia, comme prêtre, comme etc. Ont été mis, ces traditions ont été mises de côté. La tradition qui concerne les muhannathoun, ces hommes efféminés qui étaient accueillis chez les femmes du prophète, elles ont été mises de côté. On nous met en avant toujours ces versets qui ont été traits au peuple de Lot. Donc, sur la base de ces recherches renouvelées, vous avez eu dans les années 90 et 2000 l'émergence d'abord aux États-Unis, au Canada, ensuite en Grande-Bretagne, pays anglo-saxon, toujours pareil, en Afrique du Sud. Et puis un peu plus tard en Europe, notamment en France, avec Homosexuels Musulmans de France qu'on a fondé en 2010, donc près de 10 ans après la fondation d'Al-Fatiha aux États-Unis, l'émergence comme ça d'associations qui se revendiquent, qui se sont revendiquées, qui se revendiquent encore, LGBT et musulmanes en même temps sans avoir à choisir, alors qu'il y a des associations qui ont travaillé sur un discours plutôt, nous sommes musulmans et nous essayons de nous repentir de notre homosexualité, ou l'inverse, nous sommes arabo-musulmans, nous ne voulons plus du tout de l'islam. Donc, Kalem a été issu de cette dynamique au courant des années 2010, 2000, ben jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ça continue, c'est une confédération informelle d'associations LGBT, européennes ou musulmanes. Kalem. Donc voilà, on travaille avec des associations qui sont d'horizons très divers, surtout en Europe, mais aussi en Afrique du Nord, maintenant aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. Un peu en Asie aussi. Lors du dernier grand colloque en novembre de l'année dernière, il y a eu des représentants de tous les continents. On travaille sur ces représentations-là en essayant de déconstruire les préjugés liés aussi bien à l'islam qu'à l'homosexualité. Donc il y a eu des séminaires, des colloques, des conférences et des retraites spirituelles comme celle qui aura lieu ce week-end après l'Europride à Marseille. on en a organisé une au Maroc lors du Festival des musiques sacrées au début de l'année. On a fait un pèlerinage à la Mecque, un pèlerinage inclusif avec cette femme imam Amina Wadud, avec des gens qui sont venus d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, des séminaires universitaires aussi à l'EHESS où nous travaillons. Moi, j'essaie de finir mon doctorat à l'heure actuelle avec une prof qui, pour la première fois depuis 3 ans, m'a félicité en me disant que j'ai enfin compris ce que c'était que la sociologie.
Bien.
Je suis psychologue de formation, donc j'ai une excuse. Voilà, donc il y a une vraie dynamique aujourd'hui qui a été, en tout cas en France, je peux le dire, beaucoup inspirée par nos sœurs et frères chrétiens qui sont là depuis plus de 40 ans maintenant en France. La première association LGBT en France était une association chrétienne. Et je pense qu'il y a vraiment en Europe un terrain très fertile, avec des difficultés liées au racisme, à une certaine forme de laïcité très militante, idéologique, pas du tout apaisante, contrairement à la laïcité qu'elle devrait être, je pense, liée à une montée de l'islamophobie qui peut être justifiée quand vous voyez des attentats, quand vous voyez des régimes de l'autre côté de la Méditerranée qui virent islamistes du jour au lendemain quasiment, qui récupèrent des révolutions qui sont populaires au départ, laïques, démocratiques, qui deviennent... pas du tout, finalement, teintés d'islam, mais qui sont totalitaires et fascistes. Totalitaires dans le sens, je vais occuper l'ensemble de l'espace public, je vais contrôler les comportements dans l'ensemble de l'espace public et même dans l'espace privé, de manière totalitaire, donc, et fasciste, c'est-à-dire j'impose un faisceau identitaire et tous les autres faisceaux identitaires n'existent pas. Vous ne pouvez pas être de bons musulmans, vous ne pouvez pas être de bons arabes, parce que c'est ça la petite musique lancinante derrière. De ce panarabisme teinté totalitaire fasciste, teinté de religiosité, donc qui sacralise une certaine idéologie politique, et qu'on essaye aussi de déconstruire.
Je vais donc poursuivre. En effet, moi j'étais très impressionnée de mon ignorance. J'y connais strictement rien. On se fréquente depuis des années, mais bon, comme tout le monde sait, c'est pas en se fréquentant qu'on devient plus savant. Ça suffit pas de côtoyer des gens plus savants. Ça marche pas comme ça.
Et l'inverse est vrai
Et
aussi.
l'inverse, c'est vrai aussi. Mais alors, par contre, je pense qu'ici, tout le monde sait, on pense de savoir qu'est-ce que c'est le christianisme et et que le christianisme est aussi par essence homophobe. On a eu sûrement cette année, pour tous ceux qui ont vécu cette année en France, de quoi confirmer cette opinion. On a vu en effet que il y a sûrement eu des raisons qui sont aussi d'ordre simplement politique. Dans la montée, dans l'organisation du mouvement contre le mariage gay. Mais personne ne peut nier le rôle que les églises chrétiennes, en premier lieu l'église catholique, par son importance en France, tout simplement, hein, mais pas seulement, ont joué dans cette opposition au point de se demander. Ils n'ont pas pensé de trouver là, finalement, un lieu identitaire pour eux, pour elles. Finalement, il y a quelque chose sur lequel on est tous ensemble. En général, c'est très difficile que toutes les autorités chrétiennes soient d'accord sur quoi que ce soit. C'est toujours comme ça, il n'y a rien de plus insupportable que celui qui me ressemble presque complètement, mais qui n'est pas d'accord avec moi sur cet élément-là. Donc, en général, ils s'écrivent sur les pattes tout le temps, mais là, ils avaient trouvé quelque chose qui les réunissait, et ils étaient très fiers. Et moi, je m'en souviens d'une photo, c'était la photo qui ressemblait le principal responsable catholique français, donc le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur André Vantois. Le président de la Fédération protestante, le responsable de l'église orthodoxe et tout ça, et c'était tous des hommes, tous. Il n'y avait pas une femme là-dedans. ils avaient tous, je pense, une moyenne d'âge qui était au-delà de 60 ans. Et je me suis souvenu de quelque chose. Il y a un an à peu près à cette époque, j'étais allée voir la bibliste de la Fédération protestante de France, c'est une femme, qui m'avait dit, « Oh mais non, mais tu ne profites pas, ça va se passer tranquillement. » Elle vit tous les jours à la Fédération protestante de France, elle n'a vu rien venir. Et je me suis dit, bon, il y a quand même une réalité sexuée qui est derrière tout ça. Et c'est pour ça que, bon, j'ai aussi accepté d'intervenir là parce qu'il y a quand même un lien entre les questions féministes et les questions LGBT et la dureté de l'opposition religieuse aux demandes des personnes homosexuelles qui très souvent est un peu oubliée ou on ne le voit pas par l'acuité de l'opposition à la question homosexuelle en général. Alors bon, je vais faire un petit topo qui va être beaucoup plus rapide que celui de Ludovic sur la question du mouvement LGBT chrétien et sur le fait qu'on puisse pas seulement avoir et vivre des identités contradictoires ou qui sont ressenties comme étant contradictoires, particulièrement en France. Hein, je pense qu'en France, on est vraiment dans une situation où ces dernières années, il y a une telle opposition entre... On est revenu à des situations caricaturales du 19e siècle. Hein. Être croyant, ça veut dire être un peu arriéré. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi t'es croyant, sauf que peut-être ça te sert si tu as des gros problèmes dans la vie, tu as perdu quelqu'un, tu as un deuil, alors ça aide, peut-être. Mais bon, en gros, un croyant, c'est quelqu'un de spirituellement faible, caractériellement faible, qui a besoin de s'accrocher à autre chose que soi-même pour vivre. Bon, c'est ça. Et de toute façon, d'un point de vue social, c'est un conservateur, des mœurs, c'est tout ça. Donc, comme on est homosexuel, si on est croyant et qu'on se porte bien, ça pose quand même quelques petits problèmes, pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les homosexuels, en général. Or, c'est quand même une vision qui est peut-être partagée par d'autres pays, mais je pense qu'en France, c'est particulièrement virulent, et qui fait vite l'impact sur l'histoire du mouvement LGBT chrétien, qui est loin d'être le petit dernier. Donc je voulais tout simplement rappeler quelques dates déjà françaises, c'est-à-dire si le Front homosexuel révolutionnaire a été fondé en 1971, et on nous rappelle tout le temps, David et Jonathan a été créé en 1973, et le Centre du Christ Libérateur en 1975. 72, merci, parce que, étant un mouvement, le temps du Christ libérateur, qui est un peu plus souffreux que David et Jonathan, les historiques sont quand même moins, les historiens ont pris un peu moins au sérieux. Ça commence, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le temps du Christ libérateur, c'est donc, Gérard Bois fait partie.
Oui, j'ai fait partie.
Et c'était fondé par un pasteur d'origine baptiste, le pasteur Ducey, qui a été le premier à créer un espace de parole pour des personnes homosexuelles. C'était les années 70. Et donc on osait des choses qu'aujourd'hui, même nous, on regarde pas bien. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple des espaces de parole pour les personnes homosexuelles, pour les personnes transsexuelles, mais il y avait aussi un espace de parole pour les personnes pédophiles. Et on ne sait pas pour quelle raison, mais il a été assassiné. Il n'y a jamais eu vraiment de parole finale sur les raisons qui ont... On sait qu'il y avait des personnes de renseignement généraux qui étaient dans cette histoire, mais on n'a pas de lumière, sauf Bon, ce que tout le monde dit, c'est qu'il avait su des choses et qu'il a fallu le faire taire. Bon. C'est malheureusement une histoire pas très drôle, mais la réalité, c'est que dans beaucoup de pays en Europe, dans beaucoup de pays où le christianisme a une histoire très longue, les mouvements chrétiens homosexuels et la présence des personnes homosexuelles dans les églises ont été quand même parmi les premières structures créées. Si aujourd'hui le mouvement généraliste homosexuel a pris la question du mariage comme une de ses batailles fondamentales, ben, c'est quand même une réalité que les mouvements chrétiens la portent depuis les années 70 et que vous avez des églises où on pratique et on met en place des liturgies pour les couples homosexuels depuis les années 70. À l'époque, c'était une demande qui, pour le mouvement généraliste homosexuel, apparaissait comme étant une demande conservatrice. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a eu quand même, au début, cet automne, on a eu, en provenance des France, qui s'y auto-considère comme étant le plus radical du mouvement LGBT, encore des positionnements qui étaient des prises de distance par rapport à la question de la demande de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, en disant que, en gros, c'était faire comme s'adapter à la norme hétérosexuelle dominante. Bon, moi, c'est ma conviction profonde qu'il se trompe, et que, d'ailleurs, bon, vu la réaction absolument épouvantable de l'autre côté, ces voix se sont tues parce qu'ils étaient en face à quelque chose qui montrait que leur position posait quand même problème. Et si je dis ça, c'est tout simplement pour dire que parfois, on croit que des choses sont conservatrices ou parce qu'on raisonne encore avec des lunettes interprétatives qui remontent il y a 20 ans, il y a 30 ans. On voyait dans l'être marginal et dans une homosexualité vécue comme marginale et comme révolutionnaire une force subversive. Et qui aujourd'hui finalement se trouve à devoir demander non pas un espace où on peut vivre tranquillement, mais ce qu'on demande, c'est d'être au centre, de pouvoir accéder aux institutions qui structurent notre société, et que c'est peut-être pas révolutionnaire, tout simplement un peu réformiste, mais que ça demande quand même beaucoup plus de courage que de vivre séparément, chacun dans son coin. En ce qui concerne, donc bon, ça c'était un commentaire à part sur la qui venait un peu de notre actualité. Donc bon, pour vous dire que sur la question donc, du mariage, c'est aujourd'hui pratiqué dans nombreuses églises protestantes en Europe et aux États-Unis, bon, en Afrique du Sud, dans des églises de tradition protestante. En France, l'église protestante unie de France, qui est la plus grande église protestante française qui s'est constituée cette année, en unissant les luthériens et les calvinistes, va ouvrir le débat. Donc, pendant tout 2014, la discussion sera faite dans les paroisses, les délégués seront élus et le synode qui constitue l'Assemblée nationale de l'Église décidera par vote démocratique, donc qui aura la majorité aura gagné, de la question de l'ouverture des bénédictions, c'est-à-dire du mariage en forme protestante pour les couples de même sexe. Alors, quel lien entre les demandes féministes et les demandes LGBT dans le monde chrétien? Et ça, je pense que je n'ai pas les éléments pour dire s'il y a un quelconque lien avec ce qui peut être vécu dans le monde musulman et dans la religion islamique. C'est évident que les femmes dans les églises, bon là je parle principalement pour l'église protestante, les choses se font différemment pour l'église catholique, mais il y a quand même des liens. ont été les premières à poser des demandes et ont abouti peut-être plus rapidement à des réponses, en particulièrement en ce qui concerne l'accès au ministère pastoral. De façon, c'était la principale demande des femmes dans les églises protestantes, c'était celle d'accéder au rôle de pasteur. Dans l'agenda LGBT protestante, il y a trois questions. Une, c'est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire sans qu'il y ait aucune chose en plus que demande aux homosexuels par rapport à ce qu'on demande aux hétérosexuels. Le fait d'être pasteur pour les personnes LGBT et l'accès aux bénédictions de même aux bénédictions pour les couples, aux bénédictions de mariage pour les couples du même sexe. On peut dire qu'aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord, l'accueil dans les églises mainstream, parce que alors le protestantisme c'est comme l'Europride multiplié par 1000. Vous avez plein de petites églises qui font des sécessions avec les autres, et bien si ça se multiplie. Le protestantisme se développe par sécession moléculaire. Donc, on va dire le plus gros, et après vous trouverez du tout, vous trouverez les gens qui pensent, qui on va charmer les serpents, vous pouvez trouver du tout et son contraire, on fait du charme. Les églises où on charge des serpents. En Arizona, en principe, il faut avoir des serpents sur la main quand même. disons, dans les églises principales, l'accueil luthérienne, réformée, méthodiste, bon, anglicane si on les met dedans, l'accueil inconditionnel est universellement accepté. La question des pasteurs, ça se a pointé sur une question qui est celle du mariage. Les pasteurs, en général, sont mariés. Donc, quand tu n'es pas marié, ça pose problème, ça pose question déjà. Bon, alors, pendant très longtemps, jusqu'à après la guerre, dans la grande majorité des églises protestantes, il fallait être marié avant de pouvoir être pasteur. Après, bon, avec la guerre, je ne sais pas s'il y avait plein de... Bon, après la guerre, les choses ont un peu bougé, donc dans les années 60, on a quand même commencé à accepter le fait que les gens puissent se marier après d'être devenus pasteurs. Et ça pose quand même la question, c'est très souvent une question un peu... une objection un peu rhétorique, on dit, bon, vu que vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas être pasteur. Donc, ben, alors, laissez-nous marier. Non, mais vous ne pouvez pas vous marier. Donc, ça a quand même avancé pas mal. En gros, dans la grande majorité des églises protestantes, on peut être pasteur et homosexuel, au moins en théorie, après en pratique, il faut que le pasteur en question trouve un employeur, parce que ce sont des paroisses qui embauchent leur pasteur. Donc, après, il faut que ça marche, mais il y a des gens intelligents partout, et donc on trouvera du boulot pour nos pasteurs et pasteureux homosexuels. Et pour les bénédictions des couples, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en gros, la France est très en arrière, qu'en Allemagne, pratiquement dans toutes les églises régionales, parce qu'alors en Allemagne, comme en Suisse, les églises ne sont pas protestantes, ne sont pas nationales, mais chaque région ou chaque canton a son église nationale, reconnue, machin. Donc, dans le monde allemand, les bénédictions sont possibles. Dans le monde néerlandophone aussi. Dans le monde scandinave, et donc principalement, alors dans le monde allemand et scandinave, c'est principalement luthérien. Dans le monde plutôt néerlandophone et suisse, et une partie de l'Allemagne, c'est plutôt calviniste. On peut dire que, en gros,
ce qui se passe, c'est que quand on accepte les bénédictions, il faut quand même qu'il y ait la force de la communauté locale. Donc, on a des bénédictions de couple. C'est que je sache jusqu'à maintenant, ça n'est jamais arrivé qu'on décide, mais peut-être ça se fera en France, au moins c'est comme ça qu'on m'a expliqué il y a un mois et demi, que si l'Église décide qu'il y a une bénédiction, ça se fait partout, que les gens soient d'accord ou pas. En général, dans les églises protestantes, il y a quand même un certain autonomie de la communauté locale, donc il faut quand même que la communauté soit d'accord, et il faut aussi qu'il y ait des gens qui le demandent. Ce qui est c'est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de demandes de la part des couples homosexuels. Je pense aussi que beaucoup d'homosexuels croyants ont quand même intégré la norme dominante et que donc ils finissent pour ne pas demander ce qu'ils ont droit, par peur d'avoir un refus ou par... je pense principalement par ça, parce que ça les obligerait peut-être à se rendre visibles alors qu'ils fréquentent leur communauté depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais dit qu'ils étaient homosexuels et qu'ils ont peur d'essuyer les plâtres, d'être les premiers à demander des choses et que, d'avoir un refus derrière. Donc ça, c'est à peu près la situation. En France, la situation de l'Église majoritaire, c'est qu'il y a un accueil conditionnel, que pour les pasteurs, on peut devenir pasteur si on est homosexuel, mais qu'en général, on ne donne pas des ministères en paroisse, mais on donne plutôt des ministères spécialisés, c'est-à-dire bibliste, directeur du journal protestant, autre chose. On a, cette année, pour la première fois, on avait proposé à un pasteur une paroisse, mais il a préféré aller en Suisse parce qu'il était mieux payé. Parce qu'il faut dire qu'un pasteur en France a comme salaire 952 euros par mois. Donc, on fait ça par vocation et pas pour devenir riche. Surtout quand on charge des familles. Bon, on a aussi le presbytère. Mais bon, ça reste quand même pas grand-chose. Et après, bon, peut-être sur la question, bon, je laisserai peut-être, on va faire un deuxième tour.
Oui, il est 5h23. On peut avoir, pour laisser du temps à ceux qui veulent aller rejoindre la manifestation de Aide, qui va déployer des banderoles, etc. On peut laisser peut-être jusqu'à moins quart, moins dix, un tour de table pour ceux qui veulent intervenir, poser des questions ou juste donner leur avis. En sachant que s'il y a plusieurs personnes qui veulent s'exprimer, c'est bien de manifester, qu'on ait le temps d'en parler.
Et donc, on laisse 5 minutes après. Bon, s'il y a des gens qui veulent continuer à continuer, sinon on arrêtera là.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il faut parler un peu plus fort.
Donc, je représente une association de Martinique, la Caraïbe. Donc, qui permet de mettre une LGBT. Moi-même, je suis allée moi-même voir, donc je suis très croyante personnellement, j'ai vu par moi-même la langue de l'enfance évangélique. Et donc le discours que l'on tient à l'intérieur, c'est on est tous des enfants de Dieu, on est des fils, on est des autres, le pasteur est un ancien nouveau qui a reçu sa délivrance. Pendant toute la terre, j'ai vu le regard noir qui me lançait, genre qu'est-ce que c'est ici. Et donc après, c'est des mots d'acceptation, donc après, presque en dehors, ma société m'a menacée par rapport à mon homosexualité. Donc il y a vraiment cette problématique, c'est que je les attire par un discours on accueille tout le monde pour, au fur et à mesure des séances, on va dire que on va faire encore des mots, mais tu sais, il ne faut pas pratiquer quand même. Donc tu peux être au monde, mais en fait, il faut être zéro dans la réalité. Et donc, ce problème-là, c'est qu'ils attirent les personnes avec, avec ben, voilà, l'amour de Dieu, qui vont pouvoir et puis ensuite transformer par des différences, puis même des exorcismes, ce genre de choses. On a un problème par rapport à ça qui nous fait entrer sur les grandes familles qui dirigent un peu ces institutions. Et on a du mal par rapport à la thématique parce que la base, on est chrétien, on est chrétien. Même tous les mères, ensuite, le mariage en couple, j'ai pas vu que les gars en fait. Et on parle de la séparation des États pour revenir et dire qu'en tant que chrétien, il n'accepte pas. C'est vraiment très, très nié. On a vraiment un gros problème. C'est pas si.
Pratiquement. Je pense que peut-être, bon, on va peut-être voir ensemble après si on peut faire des choses. Je pense que c'est le... Oui. Après, c'est vrai que c'est, il y a cette... Bon, qu'aujourd'hui, en France, comme un peu partout dans le monde, hein, la partie plus dynamique du protestantisme, c'est plutôt de type pentecostal, pentecôtiste, évangélique, que... Bon, qu'il y a toujours de l'espoir. Moi, je fais partie d'une église qui était une église évangélique au 19e siècle, la Mission Populaire Évangélique, qui était très... bon, à l'époque, il s'agissait de convertir les ouvriers pour qu'ils ne deviennent pas communistes. Bon, c'était une autre problématique. Et qu'à force de fréquenter des ouvriers, elle est un peu devenue communiste aussi. Bon. Il y a toujours de l'espoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec des mouvements comme... des mouvements qui finalement, à la base, étaient nés pour essayer de guérir les personnes homosexuelles et qui, à force, bon, on a vu un peu avec Exodus qui s'est officiellement arrêté d'exister il y a quelques semaines, même s'il y a tout de suite une sécession pour dire qu'ils bon, allaient revenir, ils allaient faire donc, quelque chose. Mais je pense que vraiment là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, et il y a aussi, je pense, d'agir par rapport aux églises évangéliques sur ce qu'on peut, mais aussi par rapport aux églises protestantes plus classiques qui n'osent pas trop attaquer les... Mais par exemple, leur demander d'arrêter de soutenir financièrement, avec des subventions, essayer de mettre un peu en lumière ce qui se passe. On avait essayé il y a 2 ans avec Idaho de mettre vraiment cette question d'exorcisme, de guérison sur la place publique. Bon, ça n'a pas marché beaucoup.
Il y a une déclaration du ministère en disant qu'ils étaient contre.
Ouais. Voilà. Mais bon, on va peut-être prendre des contacts.
C'est une question. Je suis Jonathan, chrétien. On connaît bien l'opposition de l'Église catholique et la collusion de toutes les églises qui se sont retrouvées, comme vous l'avez bien dit, tous ensemble contre les mariages pour les personnes. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'on a quand même, puisque vous devez savoir qu'il y a d'abord beaucoup de catholiques qui n'ont pas suivi les ordres de leur évêque. Et qui était contre. Hein. Quand j'ai découvert mon propre cousin dans la marche pour le mariage pour tous, j'étais étonné. Hein. Et je crois qu'il m'a dit, oh, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi, mais on ne peut pas dire que c'est une hiérarchie. Ce que je voulais savoir, pour les musulmans, je connais peu, mais j'ai l'impression, peut-être être un préjugé, que dans les banlieues, c'est encore pire que se découvrir homo, lesbienne, dans une famille musulmane. C'est normal, c'est impossible, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le vivre. Alors, est-ce que tu vois quand même des possibilité de progrès, est-ce qu'il y a une évolution positive dans les milieux, dans les familles musulmanes? Toi-même, tu as des problèmes avec ta famille.
Oui, non, c'est clair. Je dirais que la pression en fait sociale qui est exercée plutôt par l'institution chez les chrétiens pour aller vite, parce que tout ça c'est des caricatures, mais qui ne sont pas tout à fait fausses non plus. Cette pression sociale au conformisme en matière d'hétéronormativité est pratiquée plutôt par la communauté chez les musulmans. Une communauté qui est très importante, surtout pour les musulmans, bizarrement, mais en même temps ça peut se comprendre, qui vivent en Europe et qui vont parfois de manière un peu identitaire. Bon, là encore, qu'est-ce que ça veut dire? On fait tout ce qu'on fait aussi, pas seulement parce qu'on se sent mal, mais oui, on se sent mal, on se sent bien aussi, en pratiquant une religion plutôt qu'une autre, etc. Donc, chacun trouve son équilibre et sa zone de moindre manque de confort, ou sa zone de confort. Mais oui, je pense qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y a quand même une pression sociale peut-être exprimée plus directement, plus facilement verbalisable dans certains quartiers populaires en France où effectivement les gens sont regroupés par, peut-être pas par confession religieuse, mais en tout cas, le fait est que il y a plus de musulmans dans tel et tel quartier ou de gens d'origine afro-africaine ou d'Afrique subsaharienne dans tel et tel quartier parce que bon, c'est plutôt lié à la situation socio-économique. Et de fait, ensuite, ils vont, de manière identitaire, plus se replier sur des valeurs qu'ils vont considérer comme étant des valeurs religieuses, alors qu'elles ne le sont pas. C'est plutôt des valeurs patriarcales, où voilà, on se sent agressé dans un pays étranger, on est une minorité, il y a la montée du racisme, l'islamophobie, parce qu'il y a la crise économique, pas parce que la France est raciste, comme on entend parfois. Il y a des Français qui sont racistes et puis ils l'expriment peut-être plus ouvertement, ils sont décomplexés, comme on dit, en situation de crise. Et en réponse à ça, de l'autre côté, tu vas avoir aussi des gens qui vont être plus cambrés sur leur position en disant « Ben voilà, je vous avais bien dit qu'on ne sera jamais intégré. Je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas perdre notre religion. » En pensant que pour lui, patriarcat et religion, c'est la même chose. Tous les hommes étaient tous les prophètes étaient des hommes. Le prophète Mahomet, il a pu... Voilà. Il a voilé ses femmes, etc. Donc, je pense que c'est plutôt un manque de culture personnelle. On ne connaît même pas notre propre religion, notre propre héritage culturel. C'est aussi dû au fait que c'est des gens, enfin, c'est pas des gens diplômés de hautes études, des hautes écoles de l'autre côté de la Méditerranée qui sont venus, pas toujours, qui sont venus dans les années 40-50 construire des automobiles en France. C'est des gens qui étaient dans des campagnes, qui savaient à peine lire et écrire, parfois pas du tout. Et bon, il y a un manque de culture de ce point de vue-là, il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Puis, je veux dire, pour les générations à venir, hein, parce qu'il y en a encore pour les mêmes problématiques, quand dans certains quartiers, l'éducation est laissée en friche et qu'on leur dit, vous, de toute façon, il vaut mieux que vous alliez faire des formations techniques pour rentrer sur le marché du travail le plus rapidement possible. C'est un problème. Quand vous avez des grandes écoles aujourd'hui qui en France vont faciliter l'accès dans tel ou tel quartier défavorisé à leurs écoles, je pense que c'est un plus, c'est une discrimination positive. Bon, donc il y a un moment, il faut mettre en place des solutions concrètes et analyser surtout les problématiques sereinement, quand c'est possible, et de manière juste. Parce que si on n'analyse pas les problématiques de manière aujourd'hui, on a les mêmes problèmes dans 20 ou 30 ans, voire pire. Et la problématique, elle n'est pas liée à l'islam en tant que tel, elle n'est pas liée aux familles musulmanes en tant que tel. Vous avez des gens qui sont bien blancs, bien de souche française, et qui sont super homophobes dans certains quartiers, et qui vont parler wesh-wesh, et qui vont prendre les codes du quartier, et parce que c'est devenu le code du quartier. Et que c'est une façon de réagir à ce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme étant la culture majoritaire où on va s'occuper des... En gros, c'est ça. Dans mon quartier, dans 93 à Sevran, où il y a des gens qui se sont tués régulièrement en bas de mon immeuble pour le trafic de drogue, les gens, ils ont l'impression qu'on les abandonne à eux-mêmes dans ces quartiers-là et qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux le soir parce que les dealers, ils bloquent l'accès aux cages d'escalier, etc. Alors, ils disent non, on est en train de travailler, restez dehors. Parfois, il y a des gens qui se sont tués, des familles entières qui sont brûlées dans l'appartement. Ça, c'était assez grand. Je l'ai vécu depuis des années que je vis là-bas. Et qu'en même temps, on va favoriser une toute petite minorité au sein d'une minorité qui va peut-être vouloir se marier un jour. Donc, et à un moment, si on se met à leur place, on se dit ah oui, si j'étais à sa place, effectivement, j'exprimerais cette violence de cette façon-là, même si ce n'est pas excusable. Et si on comprend la problématique comme ça, eh ben, demain, peut-être qu'on aura des solutions plus adaptées à la réalité du terrain et qu'on ne va pas continuer peut-être d'essayer de monter comme certains l'ont fait pendant 5 ans. On n'aimera personne. Il paraît qu'il veut se représenter, mon Dieu, quelle horreur. Monter les uns contre les autres en disant ah, bah, quand la justice ne marche pas, c'est la faute des juges. Quand il y a trop de trafic, c'est la faute des trafiquants. Il faut que les juges renforcent leur... Ah, bah, c'est la faute des policiers, c'est la faute des infirmières, c'est la faute de tout le monde, quoi. Et dans une société comme celle-là, où la crise économique n'est pas gérée sereinement, quand on va chercher des boucs émissaires, ben on encourage les plus extrêmes de telle ou telle communauté, en l'occurrence les musulmans aussi, à mettre en avant leur discours le plus conservateur. On a vu à l'Assemblée nationale, quand le représentant du CFCM, Conseil français du culte musulman, était interrogé, il disait, si vous voulez le mariage gay, pourquoi pas? Mais demain, nous, on demandera la polygamie. La polygamie, ça n'a rien à voir avec tout ça non plus. Rien à voir avec tout ça, au contraire. Et c'est, le Coran est venu pour décourager ça. Il y a des versets du Coran qui clairement disent de toute façon, vous n'arriverez pas à avoir plusieurs femmes. Donc, il vaut mieux vous abstenir. C'est bien que il faut faire la part des choses par rapport à ça. Mais je pense que de ce point de vue-là, ça change. Ça change, il faut être optimiste, mais ça change doucement et puis ça change aussi quand on se prend en main. Si on reste enfermé dans son stéréotype, dans sa catégorie identitaire, manière toujours pareil, presque fasciste, en disant moi je suis gay, et être gay c'est comme ça, et il n'y a pas de diversité, on doit tous être pareil parce qu'il faut se protéger par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, il faut défendre la culture gay. Si on dit être musulman c'est comme ça, et puis quand on est gay et musulman, on voit bien que ça ne marche pas comme ça. Il y a des ponts entre les deux et qu'il faut qu'il y en ait encore plus, et il faut que ça évolue. Voilà, c'est bien, on est des citoyens engagés, il faut être optimiste par rapport à ça. Mais bon, pour une personne qui s'en sort, il y en a 100 qui sont, 99 qui sont au bord du suicide, en dépression, jetés dehors par leur famille. On en a accueilli plein dans l'association.
Il y a deux questions. Alors, j'ai une question. J'ai envie de vous charrier, je ne sais pas, au début, mais je suis partie dans les familles et il
oui.
On est bien. Quels sont les mécanismes de lutte contre le sexisme au sein de mon mouvement? Alors,
je réponds pour le mien. Alors, bon, moi, je dirais, le carrefour, je me fais comme ça, j'oublie toujours de parler de mon mouvement, donc que je préside, que c'est le carrefour des chrétiens inclusifs, tenez, je vous fais passer, vu qu'on a déjà photocopié, que moi, ça sert à quelque chose. Donc, c'est un réseau francophone de groupes, qui chacun fait sa vie de son côté, et on se retrouve pour les choses, pour avoir de temps en temps une parole commune et pour une retraite annuelle de 4 jours à l'Assomption, qui c'est un moment pour étudier le texte et pour travailler des questions. Ce mouvement est présidé par moi, que je suis une femme, et notre bureau est complètement féminin, alors que le mouvement n'est pas complètement féminin. Et on a remplacé un bureau, un président qui était un homme et un... Donc, pour dire qu'il y a de l'espoir même dans les mouvements LGBT pour les filles, c'est dur. Je pense que c'est dur parce que dans les mouvements hétérosexuels, on peut au moins jouer la carte de la séduction quand on est des filles. Dans les mouvements homo, c'est compliqué. Mais c'est vrai que on s'est un peu forcé pour recruter un homme, parce que je me suis rendu compte que moi,
de façon tout à fait naturelle, si j'avais besoin d'une trésorière, de quelqu'un, qui nous fasse un plein pour essayer d'avoir des dons, etc., j'appelais un copain suisse, quoi. Et pas un copain. Mais quand même, j'appelais un suisse